Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aigleté. Nous partons aujourd'hui dans l'équivalent périgordin de la caverne d'Ali Baba pour un papier paru dans le Figaro et qui s'appelle « Défense de mammouths, manuscrits anciens ». En Dordogne, 7000 objets volés attendent leur propriétaire. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Juliette Chénion.
Bonjour.
Juliette, les auditrices et les auditeurs de Podcasting vous connaissent bien puisque vous en assurez régulièrement la présentation, mais vous êtes aussi correspondante pour RTL et donc pour le Figaro notamment. Pour ce quotidien, vous racontez une histoire assez étonnante qui se passe en Dordogne, à Bergerac, précisément des milliers d'objets possiblement volés, trouvés chez un couple de collectionneurs. 7000 biens en tout pour une valeur minimale de 700 000 euros, et c'est vraiment la fourchette basse, on va y revenir. Mais d'abord, Juliette, dans quelles conditions les policiers de Bergerac ont-ils fait la découverte de ce butin ? Tout commence par la disparition d'un coffre-fort, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est à la fin de l'année 2020, la police reçoit une plainte, ou du moins une information, comme quoi un coffre-fort avec une valeur d'1 million d'euros estimée aurait été dérobée. Donc, parce que cette valeur est très élevée, évidemment, ça commence déjà à attirer l'œil des policiers. Ils mettent énormément d'énergie pour lancer cette enquête. Et c'est au cours de cette enquête qu'ils vont remonter un fil. À partir de ce coffre-fort volé, ils vont découvrir des caches, des suspects. Et l'affaire va prendre une toute autre ampleur.
Très vite, donc, la police comprend qu'elle n'a pas affaire à des voleurs inexpérimentés, mais bien à des malfaiteurs rodés, ce qui implique forcément un circuit de revente de ces objets. Une première information judiciaire est ouverte fin 2020 pour vol par ruse et effraction et participation à une association de malfaiteurs. Elle est suivie d'une seconde début 2021 pour blanchiment aggravé et recel, et elles conduisent au placement en garde à vue de 3 suspects fin janvier 2021. Il s'agit de Patrick Gaufre et de son épouse, tous deux sexagénaires, ainsi que de leur fils de 26 ans. Précisons qu'à ce stade, tous les trois sont présumés innocents dans cette affaire. Juliette, Patrick Gaufre, c'est une figure locale connue à la fois des Bergeracois et de la justice, c'est ça ?
Oui, d'abord des Bergeracois parce qu'il possède plusieurs établissements, des commerces à Bergerac et dans les alentours. Au moment où il est placé, mis en examen, il a notamment un comptoir numismatique et philatélique à Bergerac. Il en a un autre à Villeneuve-sur-Lot, donc dans le département voisin. Sa femme tient un garage et il a aussi quelques établissements. Donc c'est quand même une personne que l'on connaît dans le Bergeracois. Pour la justice, il est aussi connu et plutôt défavorablement, puisqu'il a déjà été condamné à 3 reprises pour vol et recel entre 1998 et 2017. Et c'est d'ailleurs parce que les policiers ont vite soupçonné qu'ils avaient affaire à des voleurs expérimentés pour plusieurs raisons, qu'ils se sont aussi tournés vers ce suspect-là. Je précise pourquoi ils ont pensé que les voleurs étaient expérimentés. D'abord, ils ont constaté des empreintes digitales effacées, donc des voleurs qui auraient utilisé des gants, de la poudre. Donc ça, c'est un signe déjà d'une certaine maîtrise, on va dire, des activités de vol. Et d'autre part, ce coffre-fort qu'il fallait, pour le dérober, il fallait être très bien informé. Et donc, c'est pas un vol d'opportunité comme ça. Piss.
Alors près d'un an et demi plus tard, l'enquête est toujours en cours, mais une cinquantaine de perquisitions ont déjà été menées. Elles ont donc permis de découvrir les 7000 objets dont nous parlions plus tôt, parfois dans des conditions véritablement rocambolesques, hein Juliette ?
Oui, puisque donc on dit une cinquantaine de perquisitions, alors c'est pas une cinquantaine de lieux, hein. Il y a des lieux qui ont été perquisitionnés plusieurs fois pour faire avancer l'enquête. Mais effectivement, à partir de ce vol de coffre-fort, je vous le disais au début de cet épisode, les policiers découvrent plusieurs caches dans des différents endroits de la ville. Et notamment, c'est ce que raconte la police, puisque c'est effectivement assez impressionnant. Ils sont arrivés dans un hangar qu'ils ont fouillé. À première vue, bon, quelques objets, mais pas grand-chose. Et puis, un des enquêteurs a remarqué un écart entre le sol et les parois qui l'a un petit peu alerté. Et en regardant de plus près, ils ont aperçu un peu comme des portes qui pouvaient ouvrir, enfin des traces dans le mur qui pouvaient laisser penser qu'il y avait quelque chose derrière le mur. Et effectivement, c'était des trappes qu'ils ont ouvertes. Et pour certaines, derrière, il y avait des pièces de 6 à 10 mètres carrés. Donc, il y avait comme un double mur, en fait, ce qu'on peut lire dans les romans ou voir dans les films. Là, c'était des pièces de 6 à 10 mètres carrés qui contenaient des armoires fortes, des coffres forts, avec des objets dedans. Ce qui, évidemment, pour la justice, sonne tout de suite très suspect, puisque quand on veut cacher un objet auquel on tient très fort, on le met dans un coffre chez soi, éventuellement sous son lit ou au fin fond du garage. Mais là, un hangar avec des trappes contenant des coffres forts... Évidemment, ça alerte, ça met la puce à l'oreille à la police.
Alors, il a fallu 3 mois pour récupérer tous les objets et autant pour les répertorier et les estimer. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a été trouvé et nous expliquer comment on a pu apprécier ces pièces sans en connaître l'histoire, évidemment.
Alors, on trouve de tout, clairement. Il y a, et c'est ce qui fait une bonne partie de la valeur estimée de 700 000 euros des pièces de collection. Donc, quelques objets de collection de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, des objets d'art asiatiques. Il y a des pièces, beaucoup des pesetas, par exemple, espagnoles de certaines époques, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'objets assez communs, comme des perceuses, du matériel de l'outillage, une flûte traversière, des instruments de musique. Il y a aussi des objets qui semblent avoir servi un peu comme un char de carnaval, comme l'avant d'un char de carnaval, qui ne semble pas avoir une grande valeur. Donc c'est très divers. Tous les objets n'ont pas une très haute valeur, mais il y a quand même... Par exemple, voilà, des défenses de mammouth qui valent chacune 10 000 euros. Un fauteuil en bronze avec des décorations très atypiques, comme disait la procureure qui ne se marie pas avec tous les intérieurs. Eh bien, ce fauteuil, il est estimé à 5 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment un bric-à-brac avec des objets d'une grande valeur et des objets, sincèrement, on se demande ce qu'ils font là et pourquoi même ils ont pu être cachés.
Et pour estimer ces pièces, alors ça s'est passé comment ?
Alors pour estimer ces pièces, eh bien, il a fallu appeler une équipe d'experts assez conséquente. Hein. Il y a au moins 3 experts qui se sont penchés sur le dossier. On avait eu un expert qui spécialisait objets militaires, puisqu'il y avait donc, je vous l'ai dit, des objets des guerres mondiales, notamment des armes. Un expert en art asiatique et un expert en manuscrits et livres anciens. Avec en plus un commissaire-priseur qui lui était présent lors des perquisitions pour essayer d'avoir un premier œil en se disant Bon, alors ça, oui, c'est des objets qu'il va falloir expertiser. Ça, a priori, non. Et qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on saisit dans le cadre de la perquisition et qu'est-ce qui, peut-être, ne vaut pas le coup. Donc oui, trois experts plus un commissaire-priseur, c'est pas dans toutes les enquêtes qu'on a besoin d'autant de bras.
Et les propriétaires des objets retrouvés peuvent se faire connaître grâce à un site internet dédié.
Oui, exactement. Ça fait partie de l'enquête, puisqu'il y a plus de 7000 objets d'art et de collection. En fait, traditionnellement, dans une enquête de vol, les policiers vont photographier tous les objets, faire un catalogue. Et ce catalogue peut être consulté à la police, au commissariat. Donc les gens viennent, ils consultent le catalogue, mais souvent c'est des petites affaires, donc il y a maximum 300 objets. Ils regardent s'il y a effectivement des objets qu'ils pensent avoir été volés. Ensuite, ils retournent chez eux chercher quelques preuves, documents, photos, certificats de propriété qu'ils ramènent à la police pour dire voilà, effectivement, du coup, je porte plainte pour tel objet et j'ai la preuve qui m'appartient. Pour 7000 objets, c'est tout simplement impossible de penser s'organiser comme ça. Donc, le parquet a décidé de mettre en place un site internet, une sorte de catalogue en ligne qui est très simple, avec tous les objets rangés par catégorie et un formulaire qui fait que donc, quand les personnes identifient un objet qui leur appartenait, elles peuvent envoyer dans un formulaire des documents pour prouver leur propriété, ce qui ensuite facilite leur rendez-vous au commissariat par la suite et permet de faire avancer l'enquête.
Mais il n'est pas conseillé de revendiquer un objet qui ne nous appartient pas réellement, c'est ça ?
Pas du tout, même si, parce qu'il y a des objets, même si la perceuse ou la bétonnière vous intéresse beaucoup, c'est mieux qu'elles vous appartiennent parce que, et le site l'écrit en lettres rouges, pour tout vous dire, je l'ai mis dans l'article parce que je trouvais ça assez amusant. Voilà, c'est un site fait par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, donc on est à cheval sur la loi et on écrit en rouge, en majuscule, que si on réclame un objet et qu'on fait une fausse attestation de propriété, on risque quand même 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
On l'a dit, l'enquête est toujours en cours aujourd'hui. Que risquent les trois suspects, et en particulier Patrick Gaufre ?
Pour l'instant, ce site doit permettre de faire avancer l'enquête parce que les faits n'ont pas encore pu être qualifiés très précisément, puisque le parquet, alors pour certains objets, ils ont déjà la certitude qu'ils ont été volés. Mais on l'a dit, il y a 7000 objets, des choses très diverses. Donc le parquet s'interroge, est-ce que tous les objets ont été volés ? Est-ce qu'ils sont dans un trafic ? Est-ce qu'ils sont revendus ? Tout ça n'est vraiment pas clair. Le site doit permettre d'y voir justement plus clair sur ces points-là. Et donc ce que risquent les trois suspects dépendra évidemment de ce qui va émerger de l'enquête, puisque le parquet le dit, il s'attend à tout. Donc, certains objets ont pu être acquis illégalement, et peut-être que d'autres ont été acquis en bonne et due forme, sachant que, comme Patrick Gaufre a un comptoir numismatique et philatélique, il a des autorisations qui lui permettent aussi de faire de la brocante. Donc, il peut y avoir des objets qui ont été acquis au cours de ces brocantes et qui ne seraient pas forcément le fruit d'une opération illégale. Cela dit, un autre point qui embête quand même le parquet, c'est qu'une partie des registres qu'est censé tenir Patrick Gaufre dans son comptoir numismatique, la justice sait déjà qu'une partie des registres, ce sont comme des registres fantômes, les opérations qui y sont inscrites ne correspondent à rien en réalité. Donc il y a beaucoup de doutes, et en fonction de ce qui émergera de l'enquête, les sanctions encourues ne seront pas les mêmes, même si on peut imaginer que, comme Patrick Gaufre a déjà été condamné plusieurs fois pour vol et recel, il serait peut-être plus lourdement sanctionné s'il était sanctionné que sa femme et son fils.
Merci beaucoup Juliette Chénion d'être venue de l'autre côté du micro de Podcasting. Votre article est à retrouver sur le site du Figaro. Il s'appelle « Défense de mammouth, manuscrits anciens en Dordogne. 7000 objets volés attendent leurs propriétaires ». C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Clara Etchari, Enola Richet et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb. Réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.